Le journal était présenté par Mathieu Laurent, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. C'est un sujet majeur, l'un des thèmes qui font et qui feront la une de l'actualité en 2015. Lima, au Pérou, en ce moment où s'achève la 20e conférence de l'ONU sur les changements climatiques. Paris, le mois dernier, conférence environnementale autour du président de la République, François Hollande, où ont été fixés des orientations ou des engagements. Manuel Valls, Premier ministre, qui énonce que le climat sera une grande cause nationale en 2015. 2015, année très verte, nous disent la presse et les politiques, avec en point d'orgue, dans un an tout juste, le sommet international de Paris, un sommet crucial pour lutter contre le réchauffement climatique. Selon la presse, François Hollande aurait pris conscience que le sort de l'humanité se joue en ce moment. Face à des questions aussi graves, écologie, climat, les journalistes doivent-ils s'engager sur les questions d'environnement? On en parle ce matin dans Le Secret des Sources sur France Culture avec nos invités. En studio, Jade Lingard, journaliste à Mediapart, auteur du livre « Je crise climatique, la planète, ma chaudière et moi » paru aux éditions de La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Cyril Vandlerberg, rédacteur en chef au Figaro de la rubrique « Science et médecine ». Bonjour.
Bonjour.
Mathieu Quiré, responsable de la rubrique Croissance verte au journal Les Échos. Bonjour.
Bonjour.
Et Véronique Rebérotte, grand reporter à France Culture, spécialiste environnement, avec nous en duplex de Lima au Pérou. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Nos deux regards extérieurs, Isabelle Véramasson, historienne, sociologue des médias, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS, une voix importante de l'émission, et Thibaut Henton, une autre voix importante du secret pour le web et les images. Bonjour à vous deux.
Bonjour à tous.
Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy avec aux manettes aujourd'hui, Emmanuel Morse d'Un camp. Le clin d'œil cette semaine sera signé par Nathalie Lopez. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Concernant le protocole de Kyoto, les États-Unis semblent de plus en plus isolés, la Chine vient de le ratifier, le Canada et la Russie devraient en faire autant, de quoi relancer le contrôle des gaz à effet de serre.
Kyoto, décembre 97. Pour la première fois, les dirigeants de 150 nations sont réunis par un même objectif, éviter à tout prix un réchauffement du climat qui menace à terme la survie de la planète.
Direction Johannesburg maintenant pour l'ouverture de la phase finale du sommet de la Terre. En vedette aujourd'hui, Jacques Chirac qui va passer deux jours en Afrique du Sud.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.
L'actualité politique de ce jeudi, c'est aussi la troisième conférence environnementale du quinquennat de François Hollande. Elle s'est ouverte ce matin à l'Élysée.
On me demande à partir de quand j'ai eu cette prise de conscience. À partir du moment où je suis arrivé aux responsabilités du pays. Parce qu'à un moment, il faut aussi laisser sa trace. Et la trace que nous allons laisser tous ensemble, c'est un accord historique sur le climat. Et j'espère une exemplarité en matière de transition énergétique.
Voilà, on vient d'entendre François Hollande lors de la conférence environnementale le 27 novembre dernier. Et également Jacques Chirac, président de la République en 2002 au sommet de la Terre de Johannesburg en Afrique du Sud. C'est une déclaration qui a marqué. Une déclaration reprise d'ailleurs le mois dernier lors de la remise du prix de la Fondation Chirac par François Hollande qui a ajouté « Notre maison brûle et je crains qu'elle ne se soit entièrement consumée ». Un François Hollande vert, très en pointe dans la lutte contre le réchauffement climatique. On a un président militant écologiste. Est-ce que pour vous trois, journalistes, les deux termes sont compatibles, non pas président et militant écologiste, mais militant et journaliste sur l'environnement. Est-ce que c'est compatible, Jade Lingard ?
Militant et journaliste, oui, ça existe. Moi, je parlerais davantage de journalisme environnemental et d'engagement. Pour moi, être journaliste environnemental, c'est-à-dire spécialisé sur les questions d'écologie, d'ailleurs je parle plus d'écologie que d'environnement, pour moi c'est une forme d'engagement et pour une raison très simple, c'est que l'une des particularités de l'écologie, c'est que c'est à la fois un sujet et à la fois un mouvement politique, un mouvement social. Et donc, vous êtes face à une situation, de mon point de vue, qui ressemble un peu à ce qui a existé à la fin du 19e siècle en France et dans les pays européens, quand des intellectuels, des journalistes, des militants ont essayé ensemble d'œuvrer à faire émerger la question sociale. La question sociale n'existait pas en tant que telle. Et des gens se sont battus pour dire, si, il y a une question sociale, il y a un enjeu de protection sociale, il y a un enjeu, par exemple, de retraite, de congés payés, d'école obligatoire, d'interdire le travail des enfants. Et tous ces gens-là défendaient des idées, faisaient un travail d'information. Et au bout d'un moment, ça a permis de constituer quelque chose qui, aujourd'hui, est considéré par tous comme un sujet légitime, qui est ce qu'on appelle le social. Et pour moi, l'écologie est un peu à ce point-là aujourd'hui. Et c'est ça, pour moi, ce qui fonde, si on parle d'engagement, c'est cela que ça signifie pour moi être un journaliste environnemental engagé.
Cyril Le Vanlerberg du Figaro, notre mission d'informer n'est pas suffisante sur ces thèmes-là. Il faut s'engager, aller plus loin que simplement informer, rendre compte, selon vous.
Moi, je suis assez gêné par le mélange de journalisme et militant, mais voilà, on fait attention aux mots. C'est vrai que s'engager, c'est pas la même chose qu'être militant. Quand je parle d'un militant, quand j'imagine un militant, je vois quelqu'un qui lutte pour faire passer ses idées, qui a des certitudes, et qui est prêt à tout pour les faire passer, pour les imposer. Et pour moi, c'est totalement antinomique avec la notion de journalisme, où je suis là pour informer. Informer, c'est autre chose. Après, est-ce qu'on peut être totalement désengagé du sujet quand on traite du climat, de l'avenir de la Terre ?
Oui, c'est un sujet quand même très particulier, qui concerne tout le monde, et qui a des conséquences très graves.
Voilà, et voilà, je pense que c'est pas du tout un sujet neutre, c'est un sujet qui est évidemment très fort, qui nous concerne nous, qui concerne nos enfants, qui concerne les générations futures. Au Figaro, je me sens un peu porteur d'un certain flambeau quand même sur ces sujets-là. Pas toujours facile quand on parle de climat, quand on parle de contraintes pour l'industrie. Voilà, donc il y a une part d'engagement sur des événements qui me paraissent importants, sur des phénomènes scientifiques que j'ai à cœur d'exposer. Le réchauffement de la planète, voilà, c'est une réalité. Personne aujourd'hui le conteste. L'homme en est responsable et il faut le dire. Enfin,
On a réentendu la phrase de Jacques Chirac, notre maison brûle, mais il dit aussi qu'il s'agit d'un crime de l'humanité contre la vie, que je trouve assez fort également dans la deuxième partie de la phrase. Mathieu Quiré, des Échos, on s'engage, on milite lorsqu'on s'occupe d'écologie ou d'environnement, ou on informe.
Écoutez, moi je pense que s'il y a le souhaitable, c'est l'objectivité, c'est un peu l'utopie de notre métier. Je pense qu'il n'y a pas de raison que l'environnement ne soit pas traité de la même façon que la défense, la santé. On pourrait, en théorie, rester froid sur ces sujets, objectifs, faire le travail comme sur les autres sujets. Et puis, il y a quand même la réalité, ce qu'on voit, c'est-à-dire que c'est vrai que dans les rédactions, c'est exactement ce que disait Cyril, on passe vite pour l'écolo, le militant vert dans nos rédactions.
Mais ça, on est mal vu dans les rédactions, aux Échos, Figaro ?
C'est-à-dire que ça fait poindre des sourires parfois ou pas d'ailleurs parce qu'on passe aussi pour une expertise, mais c'est vrai qu'il y a quand même on constate que chez les journalistes environnementaux il y a rarement quand même des positions très à contrario, enfin à contre-emploi sur ces sujets. Donc c'est vrai que ce sont les sujets qui sont impliquants et toute la difficulté c'est de garder la distance à mon avis.
Jade Lingard. Pour moi, et puis après on va au Pérou.
Quand on parle d'engagement, pour moi la distinction n'est pas entre froideur et passion. Ce n'est pas une question de passion du tout. En revanche, c'est une question vraiment, et là pour moi très lourde, de critique d'un discours dominant. C'est-à-dire qu'on est dans un, pour moi, dans une société où le discours politique, économique, industriel, etc., dominant, c'est un discours de la croissance va créer des emplois, c'est un discours de les emplois comptent beaucoup plus que les atteintes à une zone humide, et que donc, si on parle d'engagement, c'est qu'il s'agit quand même d'essayer d'œuvrer, enfin d'un peu ébrécher, d'un petit peu renverser ce discours-là, qui est quand même extrêmement fort et qui à la fois se manifeste dans les rédactions parce que le sujet de l'écologie, ça arrive toujours à la fin de la conférence de rédaction, c'est plutôt à la fin du journal ou en bas du site quand on travaille pour un site internet. Donc il y a des formes de minorisation, je dirais, des sujets. Mais au-delà de notre propre sort dans nos propres rédactions, qui d'ailleurs peut changer au gré des déclarations des responsables politiques, c'est à l'extérieur, sur la question de l'audience de ce qu'on raconte. C'est vrai que moi, je suis très souvent frappée par le décalage entre le peu de réactions que peuvent susciter des articles et l'importance que contiennent certains de ces articles en termes d'information, des choses parfois très graves qui concernent des millions de personnes potentiellement. Et que donc, l'engagement, pour moi, il est là. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec la question du social au 19e siècle. C'est que c'est vraiment une question de vision, un moment d'une société, et que face à ça, c'est pas qu'une question de sentiment et de sentir engagé et empathique avec son sujet. C'est vraiment un enjeu politique très fort.
Alors, je vous propose d'aller à Lima, au Pérou, rejoindre notre envoyée spéciale, Véronique Robert-Roth, qui est, elle, très bien vue dans la rédaction et qui intervient toujours au début de la conférence. Véronique, le but du sommet de Lima, c'est donc que les 195 pays participants s'engagent à lutter contre le réchauffement climatique et ouvrent la voie, un an avant le rendez-vous de Paris, à un accord mondial pour réduire la température de la Terre. Alors, Véronique, est-ce que selon vous, les journalistes sont aujourd'hui plus nombreux qu'il y a quelques années à couvrir ce genre de sommet ? Est-ce que l'intérêt est plus important ?
Écoutez, ce genre de sommet, c'est le 20e. Alors, ils ne nous ont pas toujours attiré les foules. Au début, il y avait bien un problème climat. On voyait bien que la planète se réchauffait, mais il n'y avait pas d'urgence forcément à agir. C'est un peu changé. Il y a eu Kyoto, son protocole, l'engagement des pays industrialisés à l'époque, et seulement ceux-là qui, historiquement responsables du réchauffement, donc qui devaient avoir des objectifs contraignants de réduction de leur émission de gaz à effet de serre. Ce qu'on constate au fil des années, c'est qu'il y a moins de climato-sceptiques, ça c'est sûr, avec des rapports aussi du GIEC, des experts du climat, mondiaux du climat, qui sont de plus en plus alarmistes. Ils ont remis leur dernier rapport récemment. Donc voilà, ça intéresse les journalistes, mais en même temps, ils viennent pas forcément à ces sommets. Il y a eu Copenhague, on nous a parlé en 2009 c'était le énième sommet des Nations Unies d'urgence climatique. Il s'est rien passé. On s'est quitté à Copenhague en disant, il faut quand même, on est d'accord quand même, on va maintenir la température en dessous des 2 degrés d'ici la fin du siècle. Donc c'était décevant pour tout le monde. Les sommets depuis 2009, il n'y avait pas beaucoup de journalistes. En revanche, tout le monde est assez convaincu, qu'il y a un problème de réchauffement climatique et qu'il faut agir. Maintenant, ils viennent pas forcément là, les journalistes, ils sont assez peu nombreux à Lima, effectivement, aussi parce que c'est loin. Ça, c'est depuis toujours, c'est des négociations plutôt hermétiques. C'est cette diplomatie de la virgule, de la parenthèse, du point de suspension qu'on déplace. On passe des jours à ça. Et à Lima, alors c'est spectaculaire pour le coup, pour arriver à un texte final. Certes, certainement ici, qui sera plus ambitieux, tout va être envoyé à Paris. Voilà. Donc on préfère quand même, les journalistes préfèrent illustrer, ceux qui sont peut-être vers vous, les impacts du réchauffement, les solutions, plutôt que d'être là. Mais ça intéresse effectivement quand même le réchauffement climatique, la profession, oui.
Oui. Et est-ce que pour ce qui est des délégations, alors des pays participants, est-ce que vous avez noté, Véronique, lors des interviews ou des entretiens que vous avez pu avoir, une plus grande sensibilité ou sincérité dans les propos tenus, les engagements livrés pour lutter contre le réchauffement ?
Écoutez, on voit des très beaux discours. Alors, ils sont de plus en plus beaux au fil des années. Ça faisait des années, par exemple, qu'un secrétaire d'État américain, John Kerry, pour ne citer que lui, était personne. Il n'y en avait pas eu depuis des années. Et là, hier, il fait un discours très très ambitieux. C'est une tragédie si on ne s'implique pas. Mais après, derrière, les États-Unis, c'est ceux qui bloquent en ce moment justement les négos, parce que voilà, ils veulent rien faire avant 2020. Les pays en voie de développement leur disent, écoutez, on veut bien s'engager, nous, mais il faut quand même que vous, qui encore une fois historiquement responsable, fassiez quelque chose, et là bon, ça bloque. Donc on voit des délégations finalement, cet écart, ce grand écart entre le discours et les décisions prises, il est de plus en plus grand, et ce fossé entre pays en voie de développement et pays riches, il a jamais été aussi grand, me semble-t-il, qu'à Lima, quoi.
Alors Véronique, ces sommets sont aussi pour les militants écologistes l'occasion de se retrouver pour faire entendre leur voix. On a entendu en début de semaine des militants végétariens, par exemple, qui étaient à Lima. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, les journalistes font plus attention à eux? Est-ce qu'ils donnent plus d'espace à la parole de ces militants?
Oui, enfin, des militants, il y en a partout ici, hein, qui vous distribuent effectivement. Les végétariens sont très très riches. Ils distribuent, ils ont souvent des très beaux livres à nous donner, des sandwichs pour pas qu'on meure de faim au fil de la journée. Mais bon, voilà, c'est assez marginal, j'allais dire. Mais les écologistes, ils sont là, ils essayent. Il y a ceux qui sont embedded, j'allais dire, les ONG qui viennent avec les délégations, qui essayent de suivre les négociations, qui connaissent très bien aussi ce langage, hein, d'initier autour des discussions sur le climat, et il y a toutes les autres, hein, qui se manifestent comme elles peuvent. Alors bon, avec les végétariens, il y en a quelques autres ici qui nous vendent, je sais pas, des solutions pour aussi moins impacter la planète. Mais surtout, ils ont le sentiment qu'on les écoute peu quand même, hein, depuis quelque temps. Voilà, tous ceux qui gravitent autour d'ici, qu'ils soient vraiment impliqués dans la négociation en qualité d'observateur, qu'ils travaillent sur le texte, ont l'impression quand même que au fil des années, eh bien, encore une fois, il se passe pas grand chose. Et puis il y a celles qui s'invitent dans les discussions comme elles peuvent, hein, souvent à l'écart de ce centre de conférence bunkérisé. Ben là on est sur un terrain militaire, hein, faut le savoir, gardé un peu comme un coffre-fort. On longe d'ailleurs pour arriver ici un parcours du combattant plein d'obstacles. C'est plus qu'un symbole. Et puis les autres s'expriment bien dans la rue, plutôt calmement, gentiment, pour dire que ces sommets des Nations Unies ne les représentent pas. Ils sont vraiment loin des réalités de la société civile, mais ça se passe plutôt calmement et gentiment.
Véronique, est-ce que, selon vous, sur ce domaine de l'environnement, un domaine crucial, hein, on l'a dit, pour tous, pour la planète, est-ce que les journalistes, qu'est-ce que vous en pensez, doivent aller au-delà de leur mission d'information, tant les enjeux sont importants, ou informer avec les discours importants que l'on entend et dont vous rendez compte, c'est suffisant?
Écoutez, comme on nous dit qu'aujourd'hui le climat est à nouveau dans l'agenda politique, il faut qu'il soit pas à nouveau, mais qu'il reste effectivement dans l'agenda des journalistes. Moi, je dirais comme a dit Jade au début de l'émission, moi je parlerais d'engagement plutôt que militance. On n'a aucun doute quand on suit ces sujets aujourd'hui, comme tout le monde d'ailleurs, sur les impacts du réchauffement climatique, avec ce sentiment, puisque les solutions, elles sont là, elles sont technologiques, mais que la volonté politique, elle est difficile effectivement à mettre en œuvre, à se concrétiser. Donc, je pense que il va y avoir une année 2015 effectivement très axée en France, en tout cas puisque c'est là-bas qu'on trouvera l'accord ambitieux sur le climat à Paris l'année prochaine. Donc je trouve qu'il est important de témoigner maintenant, au-delà de cette réalité du réchauffement, des solutions qui existent aussi, qu'elles viennent aussi souvent aussi des citoyens. Il y a beaucoup de citoyens qui s'engagent, qui la font, leur transition énergétique, qui luttent, qui ont des vraies actions. En tout cas, faut montrer. Enfin, moi, je voudrais montrer qu'il y a des solutions, des possibilités d'agir où que l'on se trouve, et que parfois le citoyen va plus vite que le politique.
Merci, Véronique Robérod, grand reporter France Culture, actuellement en duplex de Lima au Pérou. Et merci également à Gilles Gallinaro, qui est à vos côtés et qui a assuré la liaison satellite. Cyril Van der Berg du Figaro, il faut aller chercher le point d'engagement.
Moi, j'ai un exemple particulier. J'ai un confrère qui était engagé, militant sur le climat. Et moi, il pensait que c'était pas un vrai problème et que le réchauffement était naturel. Donc, on a eu beaucoup de débats. C'est parfois très chaud. Ça n'a pas été aidé par les prises de position de l'Académie des sciences, dont un rapport était présidé par un ami de Claude Allègre, qui était parmi les plus climato-sceptiques. Et donc moi, en fait, je me suis appuyé vraiment sur un niveau très bas, très simple, à dire quelle est la science sur le sujet. Et là, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on a beau avoir toutes les idées, toutes les opinions qu'on veut sur le réchauffement, on a des travaux incroyables de scientifiques, et là, il n'y a plus d'ambiguïté. L'immense majorité des scientifiques arrive au constat, la Terre se réchauffe, et c'est bien l'activité humaine qui en est la cause. Fort de ce constat, même dans un environnement qui n'est pas forcément facile, dans une rédaction, pour moi c'est un argument de force de dire, voilà ce que dit la science aujourd'hui, voilà ce que disent la communauté des scientifiques. Vous avez effectivement quelques ozos, quelques climato-sceptiques poussés par des idées, par des idéologies, qui essaient de dire le contraire, mais qui ne soutiennent pas leurs éléments par des preuves. Et donc ça donne une force incroyable pour argumenter. Là où on peut être engagé aussi, c'est on a un principe en journalisme qui est de donner la parole aux contradicteurs et à ceux qui portent une idée. Alors en science, c'est quand même difficile. Est-ce qu'on va donner autant de parole aux climato-sceptiques qu'aux milliers de scientifiques qui rédigent le rapport du GIEC ? Eh bien là, je ne pense pas. Donc c'est peut-être un engagement, c'est peut-être une part de prise de position, mais la science...
Mathieu Quéry, puis ensuite Jade Lingard.
Oui, enfin, Cyril, là, tu parles de la problématique du réchauffement climatique qui, aujourd'hui, effectivement, est très consensuelle, enfin, quasi consensuelle. Donc, je trouve que c'est moins difficile à traiter aujourd'hui. Il reste beaucoup de champs, de sujets scientifiques, d'environnement, qui ne sont pas scientifiquement très clairs, quoi. Enfin, la question sur les OGM, il y a quand même quelques sujets qui se débattent. Et donc, je peux prendre ça, je peux prendre des sujets encore plus subtils sur la biodiversité. Et là, c'est pas évident de tenir cette posture-là, parce que la science dit pas toujours noir et blanc, et c'est là où bon, il faut se raccrocher à la science, mais parfois ça suffit pas et on se retrouve un peu seul dans le désert.
Schellinger.
Le climat est quand même intéressant parce que en effet, c'est peut-être l'un des sujets sur lequel le consensus scientifique est allé le plus loin, a été le plus répercuté, le plus médiatisé et organisé à travers cette organisation qui est le GIEC, qui fait l'état des savoirs sur le sujet du dérèglement climatique, de ses effets supposés, de comment on pourrait essayer de l'empêcher, etc. Et pourtant, c'est absolument insuffisant pour que ces informations-là sur la nature du dérèglement climatique, ses causes, ses effets à venir et du coup les enjeux quand même les fondamentaux pour nos sociétés soient pris en charge par ces sociétés. Et c'est là pour moi que peut intervenir et doit intervenir une complémentarité stimulante entre chercheurs et journalistes, mais les journalistes pas tout seuls, parce que les journalistes, ils sont toujours dans une société, ils sont à la fois le reflet de cette société, ils sont en conversation avec elle finalement, mais une complémentarité dans l'idée, comment est-ce que nous, à notre niveau, avec nos informations à nous et nos manières d'interpeller un personnel politique, des dirigeants économiques, des dirigeants de laboratoires scientifiques, lorsque cela se justifie, les interpeller avec ces informations-là, et pour montrer qu'il y a un écart quand même parfois béant entre ce qu'on sait aujourd'hui du dérèglement climatique et ce qu'on fait. Et moi, je trouve que dans cet espace-là, ce n'est pas du tout une contradiction entre savoir scientifique et action journalistique. Mais en revanche, c'est un complément qui me paraît nécessaire parce que je pense qu'on est allé au bout du bout de ce qu'on pouvait espérer avec le discours scientifique sur le climat. Tous les faits sont sur la table, ils ont été hyper médiatisés. Des climatologues ont pris sur eux de passer dans les médias, d'apprendre à parler de manière très brève dans les journaux télé. Jean Jouzel, par exemple, a beaucoup fait ce travail de communication qui, je pense, a été vraiment très important et déterminant. Et pour autant, c'est pas que les climato-sceptiques continuent à être très importants. C'est pas ça. C'est que la société, face à ça, reste quand même globalement assez inerte. Et donc, à la fois, il y a plein d'initiatives un peu partout. Simplement, cette floraison d'initiatives qu'il faut raconter, comme tu disais très bien, et c'est, voilà, ça fait partie aussi du job. Pour autant, elle ne suffit pas, cette floraison d'initiatives, aujourd'hui, à changer, à réduire suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre, à faire apparaître de vrais modèles alternatifs. Et donc là, pour moi, il y a un champ qui est à la fois un champ politique, mais qui est un champ journalistique, et qu'on peut traiter de ces manières-là, non militantes, c'est-à-dire, c'est pas au service d'une cause, mais en revanche, en sortant les informations et avec la rigueur la plus importante. Parce que ce qui compte en effet sur des sujets aussi controversés, c'est d'être impeccable sur ces infos.
Cyril Van Elberg, du Figaro.
Oui, je voudrais rebondir sur cette limite atteinte par les scientifiques dans leur discours. D'ailleurs, on sent chez beaucoup d'entre eux une grande lassitude. Ils se rendent compte qu'à force de tirer la sonnette d'alarme, la ficelle s'est cassée, ça ne fait plus de bruit, personne ne l'écoute. Je connais quelques-uns qui réfléchissent à comment changer de discours, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on peut être constructif, Donc il y a une vraie difficulté sur ce sujet-là. Là où je ne suis pas d'accord sur le fait que la science a tout dit, c'est que je pense que les rapports du GIEC sont quand même...
Alors GIEC, c'est le groupe international d'experts sur le climat. Hein.
Oui, c'est le groupe de scientifiques qui fait tous les 4 ans un grand rapport sur l'état du climat.
Dont le dernier a été publié début novembre.
Oui.
Voilà. Et beaucoup de scientifiques pensent que ces rapports sont trop tièdes. Et que les prévisions de hausse de température sont vraiment les plus optimistes possibles. C'est-à-dire quand on parle de plus de degrés à la fin du 21e siècle, bon, les climatologues, il n'y a plus grand monde qui y croit.
C'est ça, enfin, ça veut dire qu'on sera au-delà.
On sera forcément au-delà, et on sera plutôt à plus 4, plus 6. Je viens de faire un reportage dans le nord du Québec pour voir la fonte du permafrost. Ouais. C'est dans tout le permafrost arctique, c'est plus de carbone réuni que dans le pétrole, le gaz naturel et le charbon qui sont enfouis sous terre. Donc, et si ça fond, voilà.
Pardon, juste en précision, pardon, je voulais pas dire que la science a tout dit. Ce que je voulais dire, c'est que je crois qu'on est allé aussi fort que possible dans la médiatisation de ces données scientifiques. C'est ça que je voulais dire. Et non pas, effectivement, la science, elle n'a pas terminé avec tout ça. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire.
Mathieu Quéré.
Oui, et puis je suis désolé. C'est pas parce que les scientifiques, même s'ils montrent un consensus, le journaliste doit garder quand même une certaine distance et doivent rester un minimum critique. Je vous rappelle l'épisode des pluies acides là, dans les années 60. Pour le faire très vite, les forêts à l'est de l'Europe étaient en perdition. Il y avait des gros problèmes de dépérissement des arbres. Toute la communauté scientifique a crié sur le problème des pluies acides. Et puis au final, les médias ont embarqué là-dedans. Et puis au final, des années après, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le problème des pollutions d'origine humaine. C'était un problème naturel de dégénérescence des arbres. Donc il faut toujours garder, je pense, une distance critique vis-à-vis des scientifiques aussi. Ce n'est pas évident, mais...
C'est le travail des journalistes.
Il me semble aussi.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Isabelle Vermasson, sociologue des médias. Alors, l'environnement n'est pas un sujet simple à aborder. Alors, les politiques peuvent s'engager, militer, on trouve ça plutôt normal. Pour un journaliste, c'est très différent.
Oui, c'est d'ailleurs pas une question neuve, le fait de l'inadéquation entre un journaliste engagé et un journaliste rigoureux. Est-ce que c'est possible ? Et sur l'environnement, il y a des questions spécifiques, et je crois que ce qu'on vient d'entendre est très intéressant dans ce sens-là. Et je voudrais rappeler à quel point, pour les Français, c'est un sujet peu important. Quand on demande aux Français quels sont les thèmes prioritaires pour vous, eh bien l'environnement, la question de l'écologie arrive toujours en dernier. C'est le 12e sujet sur 12. Seulement 10% des personnes interrogées considèrent que c'est une question prioritaire. Et donc les journalistes doivent faire avec ça. C'est-à-dire que face à leur rédaction, il faut qu'ils prouvent, il faut qu'ils montrent, s'ils le croient, et je fais partie de cela, je dois le dire, que c'est une question qui est sous-estimée par les Français. C'est aussi une question qui traite de nouvelles tristes, de nouvelles graves, et nous sommes un peuple dépressif, et ce peuple dépressif supporte de moins en moins d'entendre de mauvaises nouvelles. Et vous avez parlé des journalistes de solutions, moi j'ai rencontré des gens de Reporters d'Espoir, qui voient le fait que les journaux annoncent tant de mauvaises nouvelles, une des raisons de la rupture entre les médias et les Français. Donc il faut régler cette question-là, c'est un problème que les journalistes qui traitent de l'environnement ont, et vous en avez parlé. Il y a aussi le problème du parti politique. C'est aussi une question dans laquelle il y a un parti politique qui traite cette question-là. Donc c'est la question environnementale, parce qu'il y a ce parti, pas seulement bien sûr, c'est une question politique. On se souvient quand Arthus Bertrand avait présenté son film, il y avait des élections quelques temps après, on avait dit non, ça va faire monter le vote écolo, c'est pas normal, blablabla. Donc parler écologie, est-ce que c'est parler dans un sens qui va dans un sens politique? Vous avez parlé aussi de la question des questions scientifiques. Ça, c'est un sujet sur lequel on travaille évidemment beaucoup au CNRS, c'est qu'est-ce que la science ? La science, elle est porteuse de controverses. C'est-à-dire, on ne peut pas aller chercher dans la science la solution qui réglerait, on ne peut pas dire, les scientifiques disent, non, les scientifiques sont rarement d'accord, la controverse fait partie de leur métier, ils avancent vers un consensus, c'est un consensus qui, de toute façon, va être remis en cause. Donc voilà. Alors, la dernière question, c'est évidemment le militantisme et le journalisme. Les études de Jean-Baptiste Combi, qui a beaucoup travaillé là-dessus, montrent que la moitié, peut-être plus de la moitié des journalistes qui traitent de questions d'environnement sont également membres d'associations, de mouvements environnementalistes. Ils font partie très tôt, ça a été le cas très, très, très tôt. Certains sont allés au journalisme parce qu'ils étaient écolo.
Un journaliste environnement, c'est un métier à part dans le journalisme.
Oui, puis d'autres, c'est l'inverse, sont devenus écolo parce qu'ils ont fait une prise de conscience. Dans les deux cas, c'était une question compliquée, la preuve. Et là, je crois qu'il faut parler de ce point d'orgue qu'a constitué la querelle entre Hervé Kempf et Didier Pourquerie dans Journaliste du Monde, puisque finalement, Kempf a déclaré qu'on ne pouvait pas traiter Pourquerie a déclaré que Kempf ne pouvait pas traiter la question de Notre-Dame-des-Landes parce qu'il avait écrit des livres sur ces questions environnementales qu'il était trop engagé. Et évidemment, on peut se dire, est-ce que Karl Meus ou Marie-Ève Malouine se voient reprocher de parler de politique alors qu'ils ont écrit des livres sur Ségolène Royal ? On voit bien qu'il y a là des questions compliquées qui ne seront pas réglées, mais qui sont renouvelées à chaque fois, que les questions graves, lourdes, dans lesquelles on demande de l'engagement. Certains journalistes qui traitent d'écologie pensent qu'il faut être engagé pour comprendre, il faut être engagé pour avoir de l'information. D'autres pensent, je crois qu'on a là d'une certaine manière deux ou trois visions, pardon, je ne sais pas comment vous partagez, qu'il y a évidemment des distances à prendre, à la fois nécessaires et importantes.
Thibaut-Henton, notre regard multimédia. Alors, vous avez regardé la télévision et Internet. Verdict sur les questions de climat. En général, la télé montre des faiblesses. Et est-ce que Internet apporte les corrections ?
On va commencer avec un exemple.
On revient à l'origine de cette tempête à répétition. Bonsoir Christophe de Valenbras. Le réchauffement de la Méditerranée est-il avéré ?
Eh bien, je crois que oui, d'abord, il est avéré. Plus un degré environ sur ces 30 dernières années, il peut avoir un lien. Je vais vous expliquer ça, mais d'abord, un constat. Regardez ce bocal en image de synthèse, il fait précisément...
Nous sommes le 1er décembre sur le plateau de France 2. La scène a été épinglée par le site Action Critique Média. David Pujadas pose la question du lien entre les inondations dans le Var et le réchauffement climatique. Cette question est l'occasion d'utiliser le dernier joujou technologique de la chaîne et de proposer une animation 3D qui oblige d'ailleurs le journaliste présent sur le plateau à quelques contorsions. Cette scène est éloquente à plusieurs niveaux, symptomatique d'une tendance largement répandue à ne parler de climat qu'à l'occasion de catastrophes, ce qui, de nombreuses études l'ont prouvé, ne permet pas la prise de conscience du changement à l'œuvre et encore moins, a fortiori, la modification conséquente de nos pratiques. Au contraire, signaler une tribune parue en avril dans le New York Times et relevée encore et toujours par Hubert Guillot, au contraire, une décennie de recherches suggère que les appels basés sur la peur du changement climatique inspirent scepticisme, déni, fatalisme et polarisation. Les films alarmistes, comme le célèbre documentaire d'Al Gore, Une vérité qui dérange, n'incitent pas à porter la lutte sur le front économico-politique comme ils devraient, mais favorisent plutôt des comportements d'évitement, de contournement du problème. Pour braver la prochaine tempête, acheter un 4x4. Et c'est exactement cela que dit en filigrane cette scène du JT de France 2. En profitant de l'actualité catastrophique pour parler climat au moyen d'une technologie de visualisation en 3D, ce que signe ici le JT de France 2 inconsciemment, c'est l'aveu non pas d'une impuissance à retourner, celle d'un horizon apocalyptique, d'une situation révolutionnaire appelant des actions également révolutionnaires, mais bien l'aveu d'une toute puissance à continuer. Du 4x4 à la géo-ingénierie, en passant par les produits spéculatifs pour s'assurer contre les catastrophes, on parle de dérivés climatiques, le couple finance-technologie se portera au secours de l'humanité, survive qui pourra.
Et Internet dans tout ça, Thibault ?
Eh bien, le lien avec Internet, c'est que la critique du JT et des médias traditionnels y est un sport très pratiqué. C'est un changement récent, très important, dont on a ici un exemple avec l'environnement sur Acrimed, mais on pourrait en citer d'autres. Vous avez évoqué reporters à la télévision, non, plutôt à la télévision. Son sensationnalisme, sa tendance à s'emballer sans expliquer. Et encore, on ne parle pas des chaînes d'infos en continu. Eh bien si, parlons-en. Je lisais dans un article du Canard Enchaîné consacré à BFM TV cette semaine que certains journalistes, reporters d'images, envoyés sur le terrain, font de la rétention d'informations de peur que ce soit monté en épingle à Paris. L'article évoque aussi le beau record battu en 2013 par BFM, une hausse de 41% des arrêts maladie, un chiffre qui a tout à voir avec le climat, catastrophique au moins autant que catastrophiste qui y règne.
Our lives are stage. Every-
Everybody's stars, reality's so blurry. If you scream out loud, the top of your voice wouldn't be higher than the crowd. No, tattooless and proud. Yeah, we're getting high on something that doesn't require clouds. No.
Prince sur France Culture, on vient d'entendre Cloud, extrait de son dernier album Art Official Age. Le secret des sources, les journalistes doivent-ils s'engager sur les questions d'environnement avec nos invités Jade Lingard, Cyril Van Lerberg, Mathieu Quiré et Véronique Roberotte qu'on a entendu. Vos commentaires sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr.
Les mesures les plus importantes, c'est d'abord de travailler sur les autocars de tourisme qui sont encore très largement au diesel, travailler aussi bien sûr sur les véhicules individuels, donc offrir des alternatives aux véhicules personnels polluants avec les systèmes d'autolib, d'autopartage, de véhicules électriques, donc adapter encore plus Paris à la voiture électrique avec des bornes, y compris un travail avec les copropriété qui pourra s'engager, puis avoir des zones qui soient des zones de trafic limité. La carte des pollutions à Paris montre qu'il y a des vrais canyons de pollution dans un certain nombre d'axes, et donc nous souhaitons travailler pour que sur ces axes-là, il y ait des restrictions aux véhicules polluants, tout ça pour faire reculer la pollution qui, je le rappelle, génère dans notre pays plus de 40 000 morts prématurées par an, et à Paris, c'est 6 à 7 mois d'espérance de vie inférieure à celle du reste de la France.
Voilà, vous avez reconnu Anne Hidalgo, maire de Paris, qui cette semaine a déclaré la guerre aux voitures diesel dans la capitale, plus une voiture diesel en 2020 à Paris. Anne Hidalgo pointe des chiffres qui font un peu peur, 40 000 décès à cause de la pollution, espérance de vie à Paris inférieure de 6 à 7 mois par rapport à la moyenne nationale, donc il y a urgence. Mathieu Quiré des Échos, Cyril Van Lerberg du Figaro, est-ce que là c'est une mesure pour laquelle il faut militer, la fin du diesel à Paris? On dit stop aux voitures diesel en 2020, mais on commande 300 bus. Alors, je sais qu'il y a une polémique entre Anne Hidalgo et le syndicat des transports d'Île-de-France, mais on commande quand même au final plus de 300 bus au diesel.
Oui, bah c'est à nous.
Sans le note, on le pointe.
En bon journaliste, vous le pointez, c'est parfait. Fermez le banc.
Il y a une contradiction entre les enjeux climatiques et les enjeux de santé publique. Donc c'est une affaire, c'est une pédagogie parfaite de la complexité énorme de l'écologie, puisque le diesel émet moins de CO2 que l'essence, mais est plus dangereux pour la santé, pour dire les choses hyper rapidement, et l'essence est plus pollueur pour le climat. Donc il y a une sorte de dilemme impossible, polluer le climat ou polluer la santé des gens. Il y a un élément qui est jamais, qui pour l'instant en tout cas, n'a pas encore été tellement abordé par Anne Hidalgo et qui me paraît fondamental, c'est du coup, qu'est-ce qui va se passer en banlieue d'un point de vue de protection de la santé publique? Réduire et interdire à terme la circulation diesel dans Paris, il faut le faire, c'est vraiment une urgence même de santé publique. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer en banlieue parisienne? C'est-à-dire dans les endroits où d'ores et déjà aujourd'hui, il y a déjà une très forte pollution. Et là-dessus, moi j'avais été très étonnée et frappée de découvrir que la station d'Air Paris, qui est l'association qui mesure la pollution de l'air en Île-de-France, la station d'Air Paris, qui mesure les plus hauts taux de pollution des différents gaz qui sont mesurés, et notamment des particules fines, se trouve à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, en contrebas de l'autoroute A1. Donc, je dis ça dans le sens où, oui, c'est un sujet d'écologie, c'est un sujet de santé, c'est aussi un sujet d'inégalité sociale et d'urbanisme. Et donc, tout est lié.
Isabelle Vermasson, alors on a entendu Anne Hidalgo. On note un changement quand même dans le discours des politiques sur ces questions d'environnement.
Oui, tout de même, quand je disais que les Français n'étaient pas tellement concernés par cette question, il semble que les politiques le soient de plus en plus. Et moi, j'en veux pour preuve l'article qui est paru sur Libération, sur Fabius. Vraiment, j'ai été surprise que, comme ça, Laurent Fabius se déclare porteur de la question de l'environnement. Et je réfléchissais que, finalement, la manière dont Ségolène Royal, qui était la candidate, quand même, du Parti Socialiste en 2007, avait accepté d'être porteuse de cette question-là, montrait qu'il y avait, de la part des hommes politiques, le sentiment que cette question était aussi importantes que des questions régaliennes, comme le travail, les questions internationales, etc. Et ça, Mélenchon, Hollande, on l'a entendu tout à l'heure, ce sont des gens qui ne sont pas porteurs de cette culture de l'écologie. Ce sont quand même des convaincus, assez récents, me semble-t-il. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des sous-entendus politicards, c'est-à-dire que c'est bon pour les je ne sais pas quoi? Mais quand on voit, encore une fois, la manière dont les Français ne voient pas la question de l'environnement comme une question prioritaire, il me semble tout de même que progressivement, l'écologie est partie portée par des spécialistes, par des environnementalistes. Elle est de plus en plus portée par des généralistes. C'est quand même un bon signe pour les gens qui pensent que la question est d'importance.
Alors Thibaut Henneton, toujours connecté et rivé à son écran d'ordinateur, vous avez choisi une image ou plutôt un film catastrophe qui nous montre les bons côtés, ou en tout cas les côtés inattendus d'un blackout.
Blackout City, c'est l'œuvre d'un vidéaste, Nicolas Buer, qui imagine un blackout, donc une coupure d'électricité à Londres. Tout commence par un après-midi clair et ensoleillé, puis la nuit tombe, la lumière naturelle est remplacée par l'artificielle. Le projet du vidéaste, rendre visible l'invisible, en l'occurrence les étoiles masquées par le scintillement électrique de la ville et aussi par la pollution. Un ciel très étoilé, trop étoilé pour être honnête, reparaît soudain. Inutile de gloser plus longtemps, ça dure 2 minutes, vous avez compris le concept. Sous l'électricité, les étoiles. Mais cette ambition-là, rendre visible l'invisible, a percuté une autre image de la semaine, celle du Time, avec sa traditionnelle personnalité de l'année, plusieurs personnalités en l'occurrence, puisque l'hebdomadaire américain a désigné en 2014 les combattants d'Ebola comme personnalité de l'année. Voyant cela, je me suis demandé s'il s'agissait là aussi de rendre visible l'invisible. Réflexion faite, je ne crois pas. On parle désormais assez largement d'Ebola, mais depuis quand? Depuis que le virus a touché des Occidentaux rapatriés en urgence, depuis qu'on lui a déclaré la guerre et que des militaires ont été envoyés pour le combattre. Les combattants d'Ebola, loin de rendre visible l'invisible. La couverture du Time vient donc plutôt renforcer le visible et elle n'a pas d'autre ambition sans doute. Seulement, sous un treillis, une blouse blanche, ça se voit moins.
Merci Thibaut Henneton. Le clin d'œil de l'émission signé Nathalie Lopez.
Sur plus de 180 hectares, des cottages au bord de l'eau, un immense lagon artificiel, 12 000 mètres carrés, avec toute l'année 30 degrés de température moyenne.
À Pékin, on attend avec impatience, par moins 2 degrés la nuit, le moment de rallumer les chaudières au charbon.
Oh, 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 oh. Oui, alors il faut préciser qu'en région parisienne, le chauffage au bois ne représente qu'une part infime de la consommation d'énergie, environ 5%, et pourtant il émet énormément de particules fines.
Il va passer par la cheminée.
C'est d'ailleurs ce chiffre qu'a retenu l'UFC Que Choisir pour protester contre l'interdiction des cheminées. Le problème, c'est que l'association oublie donc de regarder la situation sur l'ensemble de la région parisienne.
Le glacier Huantapayana, au-dessus de la ville de Huancayo, au sud de Lima, a perdu presque 50% de son volume en 30 ans à cause du réchauffement climatique. Le gris de la roche a remplacé le blanc des glaces.
Quand on reverrai-je, pays merveilleux,
Amazonie, cœur du monde, le futur du climat dépend de l'Amazonie.
Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe, moi? L'année prochaine, je skie au mois de juillet.
Voilà le clin d'œil, très belle inspiration que l'on doit à Nathalie Lopez. L'actualité de la semaine à l'étranger, nous allons en Chine, confrontés à de très graves problèmes de pollution. Bonjour Philippe Ratier, notre correspondant à Pékin. Philippe, est-ce que la presse chinoise a parlé de la conférence climat en ce moment au Pérou?
Bonjour Frédéric. En effet, la presse chinoise a commencé par présenter le négociateur en charge du dossier à Lima, M. Su Wei. Il sait ce qu'il veut, du rouge et du vert. La Chine compte venir à Paris pour signer soit un protocole, soit un texte juridiquement contraignant, valable 10 ans et pas 5 ans, parce que ça prend beaucoup de temps à négocier. Mise au point de M. Su Wei à Lima, l'accord de novembre annoncé à Pékin par Xi Jinping et Obama sur le climat n'est pas un engagement conjoint, ce sont deux engagements indépendants. L'un pris par un pays riche, l'autre par un pays émergent qui doit encore se développer. C'est la ligne rouge. Pour mémoire, l'engagement de Pékin, annoncé en novembre, est de plafonner vers 2030 la consommation de charbon à 4,8 milliards de tonnes par an, on en est à 3,8 milliards de tonnes brûlées, et apporter à 20% la part d'énergie non fossile dans le mix énergétique. La Chine dira comment elle compte réduire son empreinte carbone au début de l'année 2015 avec des mesures applicables dès 2020.
Alors Philippe, la presse chinoise joue un peu aux devinettes. Comment va-t-on s'y prendre chez vous ?
Une caricature dans le Global Times nous souffle la réponse. On y voit une paire de ciseaux pour couper des cheminées. Et l'agence Chine Nouvelle ajoute qu'on va délocaliser très loin. À l'origine du nuage de pollution, il y a les aciéries, les cimenteries, les verreries de la province du Hebei qui encerclent Pékin et Tianjin. La solution, délocaliser la production en Afrique. De toute façon, il y a surproduction. Un contrat est déjà signé avec l'Afrique du Sud pour y déplacer une aciérie en 2019. On prévoit de réduire de 60 millions de tonnes la production d'acier chinoise rien que dans cette province. Le marché d'émissions carbone est naissant en Chine et sera un jour national. Mais revenons à la lecture diplomatique de l'engagement de Pékin faite par Gao Feng, représentant spécial pour le climat au ministère des Affaires étrangères dans le South China Morning Post, le journal de Hong Kong. Il note avec pertinence qu'il n'y a pas de plafond d'émissions de gaz à effet de serre prévu pour 2030 et que l'annonce chinoise manque d'ambition sur ce point spécifique. Commentaire critique venant de la part d'un diplomate chinois. La Chine, comme le Brésil, comme l'Inde, comme l'Afrique du Sud, rejette les engagements chiffrés en gaz à effet de serre, ce qui pourrait réellement gêner leur développement. C'était déjà le cas à Copenhague.
Et justement, Philippe, il y a débat en Chine sur les chiffres réels et les chiffres supposés de la consommation de charbon vers 2030.
Dans le même journal de Hong Kong, on cite un chercheur chinois de Greenpeace Asie, Li Shuo, qui dit que le pic chinois de consommation charbon vers 2030 ne sera pas de 4 milliards 800 millions de tonnes équivalent charbon, mais deux fois ça et plus. Il le situe entre 9 et 12 milliards de tonnes, mais ce sont des calculs occidentaux. L'important, c'est la quantité de ce qu'on réduit vraiment, fait remarquer l'Américain Gal Luft, qui vient au secours de la Chine dans le journal Global Times. Il est le coprésident du Global Forum on Energy Security à Washington, en guerre ouverte, on le sait, avec les républicains au Sénat, qui qualifient de galéjade l'accord Obama-Xi Jinping. Regardez, écrit-il. Avec ses barrages gigantesques, la Chine, cinquième puissance hydroélectrique mondiale, a réduit les gaz 10 fois mieux que l'Europe avec son programme d'énergie renouvelable et que les États-Unis avec son programme d'économie d'essence. Elle n'a pas de leçon à recevoir du Sénat américain. Il y a 4 politiques qui ont permis de réduire de plus d'1 milliard de tonnes par an les gaz à effet de serre, classement dans The Economist. Le protocole de Montréal sur les rejets chimiques pour réduire le trou d'ozone, l'hydroélectrique, le nucléaire, la Chine première dans l'éolien et dans le solaire accélère dans le nucléaire, y compris à l'étranger. Mais c'est la 4e politique qui est la plus surprenante, la politique de l'enfant unique. La Chine a-t-elle vraiment régulé les naissances pour avoir moins de monde à chauffer au charbon ? Même la presse chinoise ne se pose pas la question. Elle attend le prochain plan quinquennal en cours de discussion pour savoir combien de mines de charbon vont rester ouvertes en Chine et quel sera le plafond de consommation nationale fixé par décret.
Philippe Reltien, correspondant de Radio France à Pékin. Merci. Voilà, merci à tous. L'émission touche à sa fin. Écologie, climat. Les journalistes doivent-ils s'engager sur les questions d'environnement ? Merci à nos invités. Jadeline Garde, journaliste à Mediapart et auteur du livre « Je crise climatique, la planète, ma chaudière et moi » paru aux éditions de La Découverte. Cyril Van Lerberg, rédacteur en chef au Figaro de la rubrique « Science et médecine ». Mathieu Quiré, responsable de la rubrique « Croissance verte » au journal Les Échos. Véronique Reberotte, grand reporter à France Culture, spécialiste environnement, qui était avec nous en duplex de Lima au Pérou avec Gilles Gallinaro, nos deux regards extérieurs qui nous ont accompagnés. Merci à Isabelle Véramasson, historienne, sociologue des médias, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS, et Thibaut Henton pour les images et le web. Merci à Philippe Reltien, notre correspondant à Pékin que l'on vient d'entendre. Dans les coulisses de l'émission, les indispensables Mathias Mégy, Vincent Abouchard pour la préparation et la réalisation de l'émission et le site du secret, franceculture.fr, avec aux manettes aujourd'hui Emmanuel Morse d'Incan, le clin d'œil de Nathalie Lopez. Dans un instant, le journal de Mathieu Laurent, suivi de répliques. La prière d'Esther, Alain Finkielkraut reçoit Elisabeth de Fontenay et Éric Marty. C'était le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique. Bonne journée sur France Culture.
Pour moi, être journaliste environnemental, c'est-à-dire spécialisé sur les questions d'écologie, d'ailleurs je parle plus d'écologie que d'environnement, pour moi c'est une forme d'engagement et pour une raison très simple.
S'engager, c'est pas la même chose qu'être militant. Quand je parle d'un militant, quand j'imagine un militant, je vois quelqu'un qui lutte pour faire passer ses idées, qui a des certitudes, qui est prêt à tout pour les faire passer et pour les imposer. Et pour moi, c'est totalement antinomique avec la notion de journalisme, où je suis là pour informer.
Et puis, il y a quand même la réalité, ce qu'on voit, c'est-à-dire que c'est vrai que dans les rédactions, c'est exactement ce que disait Cyril, on passe vite pour l'écolo, le militant vert dans nos rédactions.